Nous avons présenté le modèle de commerce international de Ricardo dès le chapitre 5, comme exemple célèbre de modèle économique. Il préconise le libre-échange. Les bienfaits du libre-échange sont un des dogmes les mieux établis parmi les économistes. Il en est peu, cependant, qui n'aient été à ce point démentis par les faits, du moins dans certaines circonstances. Dans ce chapitre, nous discuterons des préconisations ricardiennes en faveur du libre-échange sous trois angles. D'abord, à la lumière des modèles contemporains de commerce international, qui, eux, tiennent compte des imperfections de marché. Ensuite, en confrontant les préconisations libre-échangistes aux politiques réellement suivies dans différents contextes historiques. Enfin, en nous interrogeant sur la pertinence du cadre analytique ricardien pour modéliser les globalisations actuelles. La principale critique faite au modèle de Ricardo et aux préconisations libre-échangistes qui s'en déduisent est que, si l'on considère les choses en dynamique, toutes les spécialisations ne se valent pas, loin de là. Supposons en effet que, sur la base de leurs avantages comparatifs à un instant donné, un pays se spécialise dans l'industrie et l'autre dans l'agriculture. Et supposons que par la suite, les progrès de productivité soient bien plus rapides dans l'industrie que dans l'agriculture. Alors, la conclusion de Ricardo resterait vraie au départ. Il y a bien un gain pour les deux pays au moment de la spécialisation. Mais ensuite, le pays spécialisé dans l'industrie va se développer et s'enrichir beaucoup plus vite que l'autre. C'est bien sûr ce qu'avait très bien compris dès les années 1840, c'est-à-dire 20 ans après Ricardo, Frédéric Liszt, un économiste allemand. Il a proposé le modèle des industries naissantes. Ce modèle conduit à la préconisation qu'il est dans certains cas légitime pour un pays de se protéger de la concurrence internationale pour favoriser une industrie naissante afin de l'amener à maturité et d'accepter alors et alors seulement l'ouverture internationale. Ce qu'ont montré les développements récents des théories du commerce international dans l'après-guerre, c'est que l'intuition de Liszt est fondée sur une imperfection de marché, les rendements croissants. Voyons cela avec ce graphique. Supposons deux pays dont voici les courbes d'offres potentielles, par exemple de l'industrie automobile. Vous voyez qu'il y règne d'importantes économies d'échelle que nous avons rencontrées au chapitre 18. Ce qui signifie que plus la production d'automobiles est importante, plus le coût moyen et donc le prix de l'automobile baissent. On dit que les rendements sont croissants. Et supposons enfin que pour des raisons qu'il n'est pas nécessaire de préciser ici, le pays B est dans l'absolu plus doué pour l'automobile que le pays A. La courbe d'offre de B est en effet en dessous de celle de A. Dans nos deux pays, initialement en autarcie, a commencé de se développer une industrie automobile. Mais pour des raisons quelconques, le pays B est en retard d'au moins 20 ans. Son marché est par conséquent nettement moins développé que celui du pays A. Par conséquent, les prix intérieurs sont finalement plus élevés en B qu'en A. Si l'ouverture a lieu à ce moment-là, c'est le pays A qui va se spécialiser dans l'automobile et servir la demande mondiale à un prix qui est ici le prix mondial si A produit. Alors que si le pays B, initialement en retard, refuse d'abandonner son industrie automobile et la protège jusqu'à ce qu'elle descende la courbe des économies d'échelle et devienne ainsi compétitive avec l'industrie du pays A, alors l'ouverture à ce moment permet à B de gagner le marché mondial. Et ceci sera à l'avantage de l'ensemble des consommateurs puisque le prix mondial de B est inférieur à celui de A. Voilà donc comment on peut justifier la protection d'une industrie naissante. Il y a quand même une condition essentielle à cela. Il faut être capable de faire descendre la courbe d'apprentissage à son industrie relativement vite et d'obtenir qu'elle soit à la fin plus compétitive sur le marché mondial que celle du pays concurrent. C'est possible si son marché intérieur potentiel est au moins aussi important que l'autre. À condition toutefois que l'État organise une très sévère compétition interne pour sélectionner le ou les champions qu'on lancera ensuite dans l'arène internationale. Les économistes japonais avaient appelé cela la théorie du vol d'oies sauvages dans les années 60. On comprend que ce type de raisonnement ait séduit l'Allemagne dans la seconde moitié du 19e siècle, puis les États-Unis dans la première partie du 20e. Ces deux pays ont utilisé la protection de leurs industries naissantes pour devenir de grandes puissances et finalement dépasser la Grande-Bretagne. Ce fut le cas du Japon des années 60 à 90, puis des premiers dragons asiatiques, la Corée, Taïwan. Et c'est enfin évidemment le cas de la Chine et plus tardivement de l'Inde. Tous ces pays ont refusé les spécialisations appauvrissantes et ont, sous protection étatique, construit par une forte compétition interne, un système industriel haut de gamme, complet et offensif. Inversement, dans les années des indépendances du tiers-monde, les années 60, un courant de pensée d'origine latino-américaine et africaine, la théorie de la dépendance, a construit des modèles de la domination économique postcoloniale. Ces modèles montrent que ce qu'on appelle depuis la conférence de Bandung en 1958 le tiers-monde, que la spécialisation du tiers-monde dans les exportations de produits de base est appauvrissante. Et ceci en raison de l'inévitable baisse des prix des matières premières par rapport à ceux des produits manufacturés qui, eux, sont fabriqués et exportés par le Nord. On a d'ailleurs depuis mis en évidence d'autres maux engendrés par la spécialisation dans les matières premières, en particulier la malédiction de la rente minière et pétrolière. Il y a eu cependant de graves échecs des politiques protectionnistes. L'Amérique latine dans les années 30 en est l'exemple le plus évident. Le marché intérieur était trop petit, la concurrence interne pas assez forte, et ceci a gravement handicapé la croissance de ces pays pendant 40 ans. En revanche, au crédit incontestable du libre-échange, il faut le souligner, on inscrira certainement la construction européenne et la construction d'autres unions douanières régionales. Mais soulignons qu'il s'agit du moins au départ de libre-échange et même de circulation des hommes entre des pays à un niveau de développement technique et économique très proche. Entre eux, le libre-échange promeut la compétition par l'innovation et la diversité des produits. Et se fait donc au bénéfice du consommateur. Les difficultés actuelles de l'Union européenne viennent d'ailleurs largement d'une expansion rapide de ce libre-échange intégral et de la libre circulation des hommes à des pays beaucoup plus hétérogènes, comme les pays de l'Europe de l'Est ou des Balkans. En bref, les expériences réelles de libre-échange et de protectionnisme nous fournissent une magnifique illustration de ce qu'il n'existe pas de loi générale en économie, ni de modèle valable en tout temps et en tout lieu. Un deuxième point sur lequel les modèles récents de commerce international ont mis l'accent concerne les effets du commerce international, non seulement sur le bien-être d'ensemble, mais sur sa répartition au sein de chaque territoire. Stolper et Samuelson en particulier ont montré que si un commerce international fondé sur des avantages comparatifs ricardiens améliorait le bien-être moyen des deux pays, il se produisait aussi dans l'un d'entre eux une augmentation des inégalités internes et dans l'autre une réduction de ces inégalités. Dans ce cas, bien sûr, la réponse théorique est que les gagnants de l'ouverture peuvent compenser les perdants tout en conservant un gain net, puisque gain net il y a, et qu'on retrouve ainsi une situation favorable, puisque personne n'y perd et quelques-uns y gagnent. Mais dans la réalité, cette compensation ne se produit jamais, si bien que le commerce international et le libre-échange suscitent en vérité de vifs débats sur la question de savoir s'ils sont ou pas la cause des inégalités croissantes que l'on constate dans grand nombre de pays. Nous y reviendrons au chapitre suivant. Enfin, le cadre analytique des modèles ricardiens, cadre conservé par la plupart des modèles plus contemporains, même quand ils prennent en compte des imperfections de marché, représente un peu les pays comme des porte-avions envoyant des produits dans d'autres pays. En bref, seules les matières premières et les marchandises circulent. Or, dans l'économie actuelle, tout circule presque librement, sauf les hommes. Les matières premières circulent, les marchandises et leurs composants, les capitaux sous forme d'investissements directs ou financiers, et surtout les informations et les connaissances et les savoir-faire. Des acteurs nomades, les firmes globales, mettent tous les territoires en compétition pour la localisation d'activités nomades. Elles localisent différents segments des chaînes de valeur dans différents territoires en fonction de l'attrait de chacun pour chaque segment particulier de la chaîne de valeur ajoutée. C'est ainsi que la recherche, développement et la conception des produits seront localisés dans un territoire, que la campagne de marketing ou le financement seront organisés dans d'autres territoires, que les pièces de haute technologie seront fabriquées encore dans d'autres territoires, et enfin que l'assemblage final sera fait dans un territoire où les coûts d'assemblage sont particulièrement bas et surtout où existe un cluster assurant une abondante main-d'œuvre bon marché mais bien formée et bien formée par les concurrents, dont l'exemple emblématique est Shenzhen en Chine. Cette grande mobilité exige, à mon avis, un autre cadre analytique et d'autres modèles. J'en propose un au dernier chapitre.